de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs solitaires, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Kebaya est un symbole du caractère gracieux de la société indonésienne. Ambassade d'Indonésie à Mani a présenté le Tempe au 2023 Asian Food Festival. 98 millions de personnes ont accès à des soins de santé gratuits grâce aux impôts. Indonésie et les États-Unis se sont rencontrés pour discuter de la mise en œuvre du JETP. Tianjur établit une coopération d'échange d'étudiants avec Yashimata, Japon. Indonésie n'a pas encore retiré le contingent sud-coréen du Jamboree en raison de la canicule. Le gouvernement indonésien facilite l'industrie du tourisme à l'exposition Indonésie-Mexique. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Kebaya est un symbole du caractère du peuple indonésien qui est gracieux, doux, poli et modeste. C'est ce qu'a dit le président Joko Widodo lors de l'événement du palais Berkebaya au palais Merdeka à Jakarta, dimanche. L'événement a eu lieu dans une série d'événements commémorant le 78e anniversaire de la République d'Indonésie. À cette occasion, le président Joko Widodo portait une chemise coco consciente noire avec un chapeau noir et un pario vert enroulé autour du cou. Pendant ce temps, la première dame portait un kebaya intime rouge et un tissu betawi assorti. Des ministres du cabinet indonésien avançaient, des ambassadeurs de pays amis et le public ont assisté à l'événement. L'événement Istana Berkebaya est un défilé de mode kebaya intime de Betawi avec des modèles marchands sur scène, tels que des femmes ministres du cabinet avancées d'Indonésie, des épouses, des ministres, des ambassadrices de pays amis au public. L'événement a été initié par le gouvernement provincial de Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Mani a présenté la cuisine traditionnelle du tempe par le biais du festival tempe qui s'est tenu lors du Festival alimentaire asien 2023 AFF au SM Mall of Asia à Mani dimanche 6 août. L'ambassadeur d'Indonésie aux Philippines, Agus Wijoyo, dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Mani, a déclaré que la promotion du tempe en tant que patrimoine culturel indonésien, combinée à la promotion des arts culturels, constituait une autre attraction pour les visiteurs. Avec le thème « Tempe goes to Philippines for the world », Le festival tempeh viserait à promouvoir le tempeh en tant qu'ingrédient alimentaire sain et nutritif d'Indonésie qui peut être transformé en différents types de plats pour le peuple philippin. L'ambassade d'Indonésie propose différents types d'aliments transformés au tempeh et au piment qui sont distribués gratuitement aux visiteurs. 98 millions d'Indonésiens ont accès à la santé gratuitement ou sans payer grâce à BPJS Kesehatan, qui est une subvention sociale résultant de la collecte des impôts. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, lors de l'événement de la campagne spectaculaire de sympathie fiscale 2023 à Sarinah, Jakarta dimanche. Sri Mulyani a souligné que l'argent des impôts collectés auprès du public n'était pas seulement utilisé pour construire des infrastructures, mais était également versé sous format de subventions et l'assistance sociale. En plus de servir à subventionner les paiements de santé pour les pauvres, les avantages fiscaux peuvent également se faire sentir dans la vie quotidienne des gens, comme 3 kg de JPL. Comme 3 kg de GPL, les coûts d'électricité au mazout. L'Indonésie et les États-Unis ont discuté des progrès de la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste. Lors d'une réunion à Washington, cela a été transmis par le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, dans sa déclaration dimanche. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony G. Blinken à Washington le week-end dernier pour discuter des relations économiques entre les deux pays, dont le JITP est un engagement de l'International Partner Group, IPG, qui regroupe les pays membres du G7 composés des États-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, la France, l'Italie et Canada, ainsi que la Norvège et le Danemark pour l'Indonésie. Le gouvernement de la région de Cianjur, Java occidentale, et des représentants du gouvernement de la ville de Yashimata au Japon qui visitent Cianjur ont discuté de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la technologie et de la culture, y compris l'arrivée de dizaines d'étudiants du Japon à Cianjur en octobre. Le régent de Cianjur, Herman Suherman, a déclaré à Cianjur dimanche qu'auparavant, des dizaines d'élèves de l'école secondaire publique de Cianjur 2 avaient suivi un processus d'études de 2 semaines au Japon et que cette fois-ci, ce serait fait dans l'autre sens. Les étudiants japonais étudieront pendant 2 semaines à Cianjur et vivront dans des familles d'accueil comme les étudiants de Cianjur lorsqu'ils iront au Japon. Le gouvernement de la République d'Indonésie n'a pas l'intention d'attirer 1500 scouts indonésiens qui participent au 25e Jamboree mondial en Corée du Sud, qui est actuellement frappé par un phénomène de vague de chaleur. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de Marsoudi lors d'une rencontre devant le Palais Merdeka de Jakarta dimanche. La ministre des Affaires étrangères, Ratno, a expliqué que son parti continue de communiquer avec l'ambassade d'Indonésie, KBRI, à Séoul, qui s'est rendu plusieurs fois au Jamboree, pour être précis, à Semanggeum, en Corée du Sud. D'après les informations de la délégation de l'ambassade d'Indonésie à Séoul, pas moins de 1500 éclaireurs sont en bon état. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, facilite la présence des représentants de l'industrie du tourisme, y compris l'hébergement, les agents de voyage et les voyagistes qui se concentrent sur le marché du continent américain lors de l'exposition Indonésie-Mexique, appelée Expo Indonesia en Mexique 2023. Des activités promotionnelles sont également menées dans les destinations touristiques indonésiennes, en particulier les 5 destinations touristiques super prioritaires, les ventes des forfaits touristiques indonésiens et le jumelage d'entreprises, les réunions avec les agents de voyage mexicains au service d'information et de la distribution des matériels de promotion du tourisme indonésien. C'est ce qu'a transmis la ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, dans son émission officielle dimanche. Expo Indonesia en Mexico 2023 est un événement commémorant le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Mexique, qui se tiendra au Centro de Confesiones au Mexique du 3 au 6 août 2023 sur le thème « Reconnecter et présenter la merveilleuse Indonésie dans le marché américain ». Bon, cher Joëtard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Prix du pétrole brut ont grimpé en flèche au cours des 6 dernières semaines » avec moi Audrey. Chargé de tard, le prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux a dépassé 1 $ de vendredi 4 août 2023. Cette augmentation a battu le record de 6 semaines consécutives des gains. Cette augmentation a été déclenchée par les décisions de l'Arabie Saoudite et de la Russie, deux des plus importants pays producteurs, de prolonger les réductions de production en septembre. Cela soulève des inquiétudes quant à un déficit d'approvisionnement. Le contrat à terme sur le pétrole brut a augmenté de 1,10 $ américains, ou 1,3% pour s'établir à 86,24 $ américains. Pendant ce temps, la valeur à terme du pétrole américain de l'ouest du Texas s'est établie à 82,82 américains, en hausse de 1,27 $ américains ou 1,6%. Ces deux types de pétrole constituent la référence la plus importante pour le prix du pétrole brut sur le marché international. Cette valeur est la plus élevée depuis la mi-avril 2023. L'Arabie Saoudite a volontairement prolongé jeudi 3 août 2023 sa réduction de production de 1 million de barils par jour jusqu'à fin septembre. Il est également possible que l'Arabie Saoudite prolonge ses réductions de production. Pendant ce temps, la Russie a choisi une politique visant à réduire les exportations de pétrole brut de 300 000 barils par jour le mois prochain. Avec cette baisse, les experts prédisent un déficit du marché de 1,5 million de barils par jour en septembre, après un déficit en juillet et août qui devrait atteindre environ 2 millions de barils par jour. Du côté de la demande, la consommation mondiale de pétrole brut pourrait augmenter de 2,4 millions de barils par jour cette année. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre russe Alexander Novak à l'issue d'une table ronde des ministres du groupe OPEP+, à savoir l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés le vendredi 4 août 2023. Il est difficile de prédire l'évolution des prix du pétrole brut qui affectera directement le prix du mazout à l'avenir. Mais les experts prédisent que le prix du pétrole brut au cours des prochains mois ne baissera certainement pas. L'économie chinoise, qui trébuche à cause de la pandémie de COVID-19, doit encore s'étirer. Pékin a récemment annoncé une série de politiques de relance pour stimuler l'économie. Si l'économie chinoise croît à nouveau, la demande de pétrole brut augmentera, ce qui déclenchera certainement des hausses de prix. Une autre cause affectant l'augmentation du prix du mazout BBM est l'inflation dans l'industrie de transformation du carburant. Les coûts de production du mazout allant des coûts de personnel aux coûts énergétiques ont également connu une flambée. L'augmentation des prix mondiaux du pétrole devrait également avoir un impact sur les prix du carburant en Indonésie. Il n'est pas impossible que Pertamina Persero SA augmente à nouveau le prix du mazout ou carburant pour certains types. Bon, cher Jolitar, c'est tout le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 7 août 1960. Fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance de la France. La Côte d'Ivoire est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est bordée au nord par les pays du Mali et du Burkina Faso, à l'est de la Ghana ou le sud par le golfe de Guinée. La ville-mère, la capitale de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro. Auparavant, la Côte d'Ivoire était un pays colonial français. Il n'est donc pas étonnant que la langue officielle de ce pays soit le français. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 août 1982. Les États-Unis, le Liban et l'OLP signent un accord. Les États-Unis, le Liban et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, ont signé un accord conjoint le 7 août 1982 suite aux attaques israéliennes de plus en plus généralisée lancée au Liban depuis juillet 1982 dans le but d'expulser les troupes de l'OLP. L'accord contenait un accord de retirer les troupes de l'OLP de Beyrouth. Même si Israël dispose d'un équipement militaire sophistiqué, l'OLP a réussi à résister jusqu'à 80 jours. Mais finalement, sur la base de l'accord, Yasser Arafat est prêt à retirer ses 12 000 soldats du territoire libanais, puis être basé dans 8 autres pays arabes. Le retrait des troupes de l'OLP n'a pas calmé les soldats israéliens au Liban, car les combattants du Hezbollah ont continué à les attaquer jusqu'à ce qu'ils soient contraints de quitter la région en 2000. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 7 août 1998, attentat à la bombe contre l'ambassade des États-Unis. Simultanément, des bombes ont explosé dans les ambassades des États-Unis à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie, le 7 août 1998. Plus de 200 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion piégé. Les attentats ont été attribués à des membres locaux du djihad islamique égyptien. Fazoul Abdullah Mohamed et Abdullah Ahmed Abdullah sont interprétés comme les cerveaux de l'attentat. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Aku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkan.
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et en pour le titre, l'Indonésie et le Royaume-Uni conviennent d'étendre leur coopération en matière de transition énergétique. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Arifin Tasrif, et le ministre britannique de la sécurité énergétique et du net zéro, Graham Stewart, ont convenu d'étendre le programme de coopération entre l'Indonésie et le Royaume-Uni vers la transition énergétique bas carbone de l'Indonésie Mentari. Arifin Tasrif, après avoir lancé l'extension du programme Mentari au bâtiment du ministère de l'énergie et des ressources minérales à Jakarta, a déclaré vendredi 4 août que le Royaume-Uni s'est engagé à accroître son soutien pour atteindre l'objectif de zéro émission nette NZE de l'Indonésie. Arifin Tasrif expliquait qu'initialement, le programme Mentari devait se terminer en 2024. Selon l'accord, il sera prolongé jusqu'en 2027. Le Royaume-Uni fournira également 6,5 millions de livres sterling supplémentaires ou l'équivalent de 135 milliards de rupiah pour maintenir et améliorer l'initiative du programme. Il a déclaré que Mentari est un programme visant à améliorer la planification et l'approvisionnement en énergie renouvelable, à la fois pour les applications en réseau et hors réseau, en priorisant les politiques, les recommandations et les études techniques. Ils ont également travaillé sur plusieurs projets d'énergie à faible émission de carbone et mis en œuvre des projets pilotes dans l'est de l'Indonésie. Arifin Tasrif a ajouté qu'outre le programme Mentari, le Royaume-Uni soutient également activement l'Indonésie par le biais de divers programmes, notamment le Partenariat pour des transitions énergétiques justes, ZETP, et le Comité mixte économique et commercial, ZITCO. Il prévoit que ce partenariat continuera à se développer, promouvant la coopération technique, le commerce durable et l'investissement vert entre les deux pays. Arifin a également déclaré que l'Indonésie invite davantage des partenaires internationaux à soutenir une transition rapide et efficace vers les objectifs d'énergie propre de l'Indonésie. L'Indonésie a besoin d'investissements pouvant atteindre 1 million de dollars américains en 2060 pour les centrales et transmissions d'énergie renouvelable. Il a expliqué que le besoin de soutien financier augmentera car sa partie mettra en œuvre la retraite anticipée, cessation des centrales électriques au charbon dans les années à venir. Par conséquent, il a ouvert des opportunités d'investissement et une coopération étendue pour atteindre cet objectif. À la même occasion, le ministre britannique de la sécurité énergétique et du net zéro, Graham Stewart, a déclaré que l'Indonésie pourrait jouer un rôle majeur dans la transition vers énergie propre. Avec l'aide de l'expertise et des investissements britanniques, l'Indonésie accélère sa transition du charbon vers l'énergie propre. Selon Graham, étant l'un des pays dont l'économie connaît la croissance la plus rapide au monde et un grand potentiel de développement des énergies renouvelables, l'Indonésie peut jouer un rôle majeur dans la transition énergétique propre en Asie du Sud-Est. Avec l'aide de l'expertise et des investissements du Royaume-Uni, l'Indonésie accélère sa transition de charbon à l'électricité propre et travaille dur pour atteindre le zéro net en 2060 au plus tôt. En outre, Graham a également déclaré que le programme Mentari avait été mis en œuvre pour aider l'Indonésie à réaliser son potentiel d'énergie renouvelable. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
percaya padamu lagi. Yang aku dengar sana sini kau punya janji. Lalu yang mana, aku dia atau dia? Jadi bagaimana, aku bingung. Yeah. Yang jelas aku ingin kepastianmu. Aku tak mau buang-buang waktu percuma.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces rites, l'art de la flûte à tambour est un art musical composé de deux principaux instruments de musique, à savoir la flûte et le tambour. Il existe d'autres instruments de musique supplémentaires, à savoir le tifa, un instrument de percussion typiquement papou. La flûte est un instrument avant en bambou, tandis que tambour est un instrument à percussion fait de peau d'animaux tels que des vaches, des chèvres et des cerfs, et est doté d'un cadre. Habituellement, les habitants de Papouasie fabriquent eux-mêmes cet instrument de musique. Pour fabriquer la flûte, ils coupaient du bambou d'environ 70 cm de long, puis le nettoyer. Le bambou est ensuite troué pour produire des sons et des tonalités à l'aide d'un fer chaud. La taille de la flûte dépend du nombre de tons nécessaires. Les joueurs de flûte à tambour se composent de joueurs d'instruments de musique et de danseuses. Les joueurs d'instruments de musique sont généralement des hommes. Les joueurs d'instruments de musique et les danseuses comptaient une vingtaine de personnes. Dans un spectacle de flûte à tambour, les danseuses portent généralement des vêtements papous traditionnels. Les danseuses et musiciens utilisent également des coiffes qui symbolisent la région de Papouasie, comme les plumes de l'oiseau Cendrawasih. Cet art est également joué pour célébrer des jours importants, tels que le jour de l'indépendance, les élections, voire les jours religieux. Initialement, cet art était en effet pratiqué lors des jours religieux chrétiens. Cet art est joué pour accompagner les prières. Ces rites, lorsqu'ils les jouaient, le rythme de la flûte à tambour commence généralement par un coulant sur le tambour et soudain les coups sont durcis, de sorte que le son s'agrandit comme si une guerre était sur le point de se produire. Ceci est fait pour qu'il y ait harmonisation du son de la flûte à tambour elle-même. Parce qu'une fois le son agrandi, il redeviendra petit avec de beaucoup. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la musique soit terminée. Quand ils jouaient, les danseuses commencent à se balancer au son de la musique de la flûte à tambour. Les mouvements de danse sont même les uns des autres. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Kau pahami hal yang sama. Jangan. rasa kecewa sambut hangat cinta yang ada.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung signifie au palais de Pagaruyung. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Berbaju Merah. Je répète, Berbaju Merah signifie vêtu de rouge. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sor Tauli, un guide touristique de la ville du palais de Pagaruyung. Sor Tauli a informé qu'au palais de Pagaruyung, les visiteurs pouvaient louer des vêtements traditionnels de Minangkabau. Écoutons la conversation.
Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, berbaju merah. Berbaju merah signifie vêtu de rouge. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Seperti. Seperti signifie comme. Orang-orang. Orang-orang signifie les personnes. Berbaju merah. Berbaju merah signifie vêtu de rouge. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu signifie comme les personnes vêtues de rouge. coba. Coba signifie essayer, pakaian adat. Pakaian adat signifie vêtements traditionnels. Menyewa. Menyewa signifie louer. Berfoto. Berfoto signifie prendre des photos. Latar. Latar signifie le spot. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung signifie le palais de Pagaruyung. Dans la conversation, vous entendez seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu signifie comme les personnes vêtues de rouge. Dans cette phrase, il y a le mot berbaju merah. Je répète, berbaju merah signifie vêtue de rouge. Le mot de berbaju, je répète, berbaju signifie vêtue, dans cette expression signifie porter des vêtements. Berbaju merah signifie vêtue de rouge, ce que l'on entend dans la phrase, c'est-à-dire porte un vêtement rouge. Les autres exemples, venez écouter d'autres exemples d'expressions pour décrire des mots qui signifient porter. Chris berkacamata hitam. Chris berkacamata hitam signifie Chris porte des lunettes de soleil. Dia bercelana pendek. Dia bercelana pendek signifie il porte un pantalon court. Il existe trois types de vêtements traditionnels de Minangkabau, à savoir pakaian pengantin signifie les vêtements de mariée, pakaian penghulu signifie les vêtements de penghulu, et les vêtements des femmes mariées, à savoir bundo kanduang. Les vêtements de mariée sont portés par l'époux et l'épouse. Mais les vêtements de penghulu ne sont portés que par les hommes. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya. Mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Thank you.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson grandiose intitulée Sebelum Aku Mati. Chers auditeurs, en 1963, le maestro indonésien de grandiose, Gesang Marto Hartono, compose la chanson intitulée Sebelum Aku Mati. Cette chanson a des paroles courtes mais contient une philosophie selon laquelle tous les humains finiront par mourir. Dans cette chanson, Gesang veut aussi dire qu'il donne un héritage éternel sous la forme des œuvres qu'il a produites au cours de sa vie. Bon, chers auditeurs, voici Gesang Marto Hartono et Tuti Trisedia vont chanter une chanson keroncong intitulée Sebelum Aku Mati. Bonne écoute. Abadi.
tinggalkan warisan abadi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.